Vous écoutez On lit pour vous.
Face cachée, un film sur la réalité des immigrantes face à la violence, un texte de Patrick Bizindavi, paru le 15 mars 2025 dans l'Express.ca. La première du film Face cachée à Scarborough a offert une réflexion sur la violence conjugale subie par certaines immigrantes au Canada. Produit par l'Église Crosspoint Fellowship Toronto, ce film met en avant des réalités souvent ignorées et vise à sensibiliser le public à cette problématique sociale. Une histoire inspirée de faits réels. Face cachée suit le parcours d'Alice, une jeune Ivoirienne qui quitte son pays avec l'espoir d'un avenir meilleur. Mais son rêve d'une vie nouvelle au Canada est rapidement brisé lorsqu'elle se retrouve enfermée dans une relation marquée par la violence et la manipulation. Le film explore des dynamiques de la violence conjugale, mettant en lumière la difficulté pour les victimes de s'en sortir et la force nécessaire pour reprendre le contrôle de leur vie. L'histoire d'Alice est un témoignage de la réalité vécue par de nombreuses femmes immigrantes, souvent isolées et confrontées à des barrières culturelles et linguistiques qui compliquent leur accès à l'aide. À travers une narration immersive et une mise en scène sobre mais percutante, Face cachée propose une réflexion sur les conséquences psychologiques et sociales des violences conjugales. Un débat nécessaire après la projection. La soirée s'est poursuivie par une discussion rassemblant des experts et des représentants d'organisations engagées dans la protection des femmes. Ngalula Kalunda, consultante en gestion de projet, a souligné l'importance d'adapter les services de soutien aux réalités des femmes immigrantes. Didier Conan, président de l'association Aquaba Community, a insisté sur la nécessité d'une meilleure sensibilisation au sein des communautés africaines pour briser le tabou entourant la violence conjugale. Edith Léa Taki, cofondatrice de Vital Vision, a quant à elle mis l'accent sur le rôle des organisations communautaires dans l'accompagnement des victimes. Le regard du réalisateur et des acteurs. Le réalisateur, Serge Arnaud Diette, a expliqué sa démarche « Face cachée est une œuvre de sensibilisation avant tout ». Nous avons voulu donner une voix à celles qui n'osent pas parler et montrer les mécanismes de l'emprise psychologique et de la violence. Joëlle Sainte-Rose, qui interprète Alice, a décrit son expérience dans ce rôle difficile. Pour incarner Alice, j'ai mené des recherches approfondies, discuté avec des spécialistes et regardé des témoignages de femmes ayant vécu ce type de situation. C'était un rôle exigeant émotionnellement, mais nécessaire pour transmettre la réalité des victimes. Une scène en particulier a marqué le tournage. L'atmosphère sur le plateau était très chargée émotionnellement lors d'une séquence où Alice est violemment agressée. Tout le monde a voulu que ce moment soit le plus authentique possible, sans tomber dans le sensationnalisme. Un film soutenu par une démarche engagée. Le projet a bénéficié d'un financement dans le cadre de la subvention ontarienne pour les mesures de sécurité visant la prévention des crimes haineux. Crosspoint Fellowship Toronto considère ce film comme un levier pour encourager la discussion et la prise de conscience. Le pasteur, José Quadio, a rappelé que les églises ont un rôle à jouer dans l'accompagnement des victimes. Nous devons être des lieux de refuge, d'écoute et de soutien. Trop de femmes souffrent en silence, et nous devons changer cela. au-delà de la salle de cinéma. Loin de s'arrêter à cette projection, Face cachée sera accessible sur YouTube d'ici un mois sous la forme de 6 épisodes diffusés chaque semaine. Cette approche permettra d'atteindre un public plus large et de prolonger le dialogue autour des violences conjugales. Ce film s'inscrit dans une dynamique de sensibilisation et de mobilisation contre les violences faites aux femmes. En mettant en lumière des récits souvent tus, Face cachée interpelle, éduque et appelle à l'action pour une société plus inclusive et protectrice envers les victimes. C'était Face cachée, un film sur la réalité des immigrantes face à la violence, un texte de Patrick Bizindavi, paru le 15 mars 2025 dans l'Express.ca.
Des habitants du Québec parlent des incivilités des automobilistes et de la peur de leur vie. Témoignage paru le 19 mars 2025 dans Le Devoir. Je ne me sens pas en sécurité. Ces mots reviennent souvent dans les témoignages de lecteurs piétons que Le Devoir a recueillis dans le cadre de son grand dossier sur la sécurité des piétons. Après les Montréalais, c'est au tour des habitants de Québec de raconter leur réalité dans ce deuxième volet. Des trottoirs pris d'assaut. Témoignage d'Annabelle Stanziani, Mathieu. Je ne me sens pas en tout temps en sécurité en tant que piéton. J'habite au centre-ville à Québec et je me déplace très souvent avec mes enfants à pied. Malheureusement, je sens les automobilistes et même les autobus très pressés. Ils passent régulièrement au feu rouge sur l'avenue Cartier, qui est une voie très passante. Malgré des signalements à la ville, cela n'a pas changé. Récemment, nous avons vécu une situation très particulière en sortant de l'école primaire Saint-Jean-Baptiste. Les automobilistes n'étaient pas capables de tourner sur la rue Saint-Jean en descendant la côte de la rue Clairefontaine, car elle était glacée. Plusieurs se sont retrouvés sur le trottoir et le parvis de l'église, passant très près de frapper des piétons. C'était très dangereux. Malgré l'appel au 911, ils nous renvoyaient vers le service de la ville. Celle-ci nous a répondu qu'il y avait eu un signalement 30 minutes avant mon appel et qu'ils allaient s'en occuper prochainement. J'ai dû rappeler la police pour insister sur la sécurité des piétons et des enfants qui étaient compromises. À noter que, par contre, je trouve que le maire Bruno Marchand mise sur plusieurs infrastructures pour favoriser le partage de la route et forcer les automobilistes à ralentir. Donc, j'ai espoir que ça s'améliorera avec le temps. À qui la priorité? Témoignage de Maude Laplante Dubé. J'habite au centre-ville. Je circule souvent à pied. Et je ne me sens pas en sécurité. Tous les jours, je vois des automobilistes accélérer lorsque le feu passe au jaune aux intersections pour être certains de pouvoir passer avant le feu rouge. Souvent, ils finissent par passer sur le feu de piéton. Même chose sur le campus universitaire ou aux endroits où on a ajouté des feux près des passages de piétons pour indiquer que ceux-ci ont la priorité. Encore récemment, une automobiliste a accéléré pour passer avant moi à un passage piéton alors que j'étais déjà engagé. Je ne comprends pas. L'automobiliste, lui, est protégé, il est au chaud en hiver. Pourquoi cette urgence qui pousse à couper la voie aux piétons et à risquer leur vie? Des sanctuaires sur roues. Témoignage de Serge Sokolski. Piéton invétéré, je subis le trafic automobile sans cesse croissant. Traverser une rue, une intersection se fait parfois au péril de mon intégrité physique. Les virages à droite, une stupidité inventée par des automobilistes pressés. Les passages sur feu rouge, une infraction. Les sorties de garage souterrains, les intoxiqués de l'écran de l'ordinateur de poche, faussement appelé téléphone, tout cela contribue à rendre la vie de piéton périlleuse. Même sur les trottoirs, on n'est pas en sécurité. Je me suis retrouvé sur le capot d'une voiture sortant d'un stationnement souterrain. J'ai évité de justesse de nombreuses collisions au sortir d'un stationnement, au croisement pourtant protégé, mais non observé par les automobilistes. Ils et elles ne regardent que le trafic venant de leur gauche, qui pourrait abîmer leur sanctuaire sur roue. Ne parlons même pas des passages protégés pour piétons, totalement ignorés par la majorité des automobilistes. Les piétons, dites-vous bien, chers automobilistes, que vous n'êtes que des piétons en voiture. Et pourtant, il existe des automobilistes aimables et respectueux, mais on peut les compter. À droite, toutes. Témoignage de Julie Curie. Malheureusement, je dois dire que non, je ne me sens pas toujours en sécurité lorsque je marche dans la ville de Québec. Cet été, j'étais avec ma mère et nous avons voulu traverser une intersection. Un camion ben à dire oui est arrivé quelques instants après nous. Je pensais qu'il nous avait vus. Donc, lorsque le feu pour piétons s'est allumé, nous avons traversé la rue. Au moment où on passait devant lui, il a commencé à avancer, mais il a freiné brusquement lorsqu'il m'a vu à sa gauche. Heureusement, sinon ma mère se faisait écraser. On a eu la peur de notre vie. C'est dommage, mais je pense que le virage à droite sur feu rouge devrait être interdit pour certains types de véhicules. Traverser, toute une aventure. Témoignage de Denis Proux. J'habite à Québec et, durant plusieurs années, j'allais travailler à pied sur une distance de 2 kilomètres. Pratiquement personne ne respecte les passages de piétons. Un après-midi, avec un collègue, nous voulions traverser la côte de Salaberry. À cet endroit, il y a un passage pour piétons, bien indiqué, en plus d'un feu jaune clignotant avec la mention « Attention, piétons ». C'est juste à côté d'une école secondaire. Nous mettons le pied dans la rue pour indiquer que nous voulons traverser. Pourtant, la première voiture passe. Nous retirons notre pied pour ne pas être frappés. Ensuite, la deuxième, la troisième et la quatrième font pareil. Heureusement, la cinquième est une voiture de la police municipale. Mais non, elle fonce elle aussi. Enfin, arrive un taxi qui s'arrête. Imaginez un passage plus banal. Vous n'avez aucune chance. Une autre fois, je traverse une rue où il y a des bandes jaunes pour indiquer où passer. Une voiture s'en vient, mais pas trop proche. Je pense avoir assez de temps. Mais non, le type accélère en me voyant et je retourne sur mon trottoir. Il passe, s'arrête et me dit que je dois être plus prudent. Je lui réponds que c'est un passage piétonnier et que j'ai la priorité. Il me dit « Non, monsieur, ça ne s'applique pas aux heures de pointe. » Parfois, il y a des gens qui savent vivre, mais c'est toute une aventure d'être piéton au Québec. La sécurité et la politesse d'abord. Témoignage de Pierrette Paquin. Au centre-ville, je marche quotidiennement entre 5 et 10 kilomètres par jour. Je vois régulièrement des automobilistes passer sur le feu des piétons. Au lieu de s'arrêter, les gens accélèrent pour ne pas manquer le feu. Malheureusement, ils sont déjà sur le rouge lorsqu'ils passent à l'intersection, et le piéton est en droit de traverser. Il devrait y avoir des opérations de surveillance par des policiers pour remettre la sécurité et la politesse sur la route. L'intersection entre l'avenue Cartier et le boulevard René-Lévesque est particulièrement problématique. C'était « Des habitants de Québec parlent des incivilités des automobilistes et de la peur de leur vie ». Témoignage paru le 19 mars 2025 dans Le Devoir.
Des rues plus propres, des vies transformées. Les alliés du village en action. Une chronique d'André Constantin Passiour, parue le 27 mars 2025 dans le magazine Fugue. Tout au long de l'année, beau temps, mauvais temps, ils sont là. L'été dernier, ils ont veillé sur les fleurs et les plantations avec soin, rafraîchi à coups de pinceau le ruban arc-en-ciel qui serpente sur la rue Sainte-Catherine-Est et nettoyé la moindre trace de détritus sur leur passage. Leur présence est vite devenue familière, saluée tant par les commerçants, commerçantes que par les passants, passantes, sans oublier les personnes en situation d'itinérance qui les reconnaissent et échangent quelques mots avec eux. Autrefois connue sous le nom d'escouade du village, cette équipe a adopté un nouveau nom qui lui sied à merveille, les Alliés du village. Cet hiver encore, deux par deux, ils ont sillonné les rues du secteur, bravant le froid mordant pour ramasser déchets et seringues, contribuant à faire du village un espace plus accueillant. Et avec l'arrivée des beaux jours, ils seront de retour pour la piétonnisation, arborant fièrement leur t-shirt rose et poursuivant leur mission essentielle, prendre soin du village et de ses habitants-habitantes. Un besoin devenu essentiel à l'année longue. Même sous des températures glaciales avoisinant les moins 30 degrés Celsius, les Alliés n'ont jamais cessé de parcourir les rues du village. Chaque jour, ils marchent jusqu'à 12 kilomètres, affrontant le vent et la neige pour garder les artères Atatecan et Sainte-Catherine propres. Si nous n'étions pas là, cet hiver aurait été une catastrophe, confie Sacha Baga, membre de l'équipe depuis un an. À la fin de chaque journée, nous avions accumulé des sacs et des sacs de déchets. Une histoire de transformation. Mamadou, un nouveau venu depuis novembre, a lui aussi rapidement compris l'ampleur du travail. Dès que le froid s'adoucit, on revoit les déchets qui traînent dans la rue, dit-il, soucieux. Mais son histoire, bien plus qu'un témoignage sur l'état des rues, est une véritable leçon de résilience. Lorsqu'il évoque son parcours, Mamadou ne peut retenir ses larmes. « Je suis un des plus chanceux de l'équipe, dit-il, la voix tremblante. J'étais dans la rue, je les voyais travailler. Un jour, j'ai pris mon courage à deux mains et je suis allé voir Sacha. Je lui ai demandé si je pouvais me joindre à eux. Elle m'a envoyé à la maison du père où j'ai rencontré André Leroux, le coordonnateur insertion et maintien au logement. J'ai été patient, je suis revenu encore et encore, jusqu'à ce qu'on accepte de me rencontrer. Sans eux, où serais-je aujourd'hui? » Sa gorge se noue, les larmes roulent sur ses joues. « Ils sont plus que ma famille, ils sont ma vraie famille. Pour rien au monde, j'arrêterai ce travail-là. Je remercie du fond du cœur la SDC du village. On dit de rendre à César ce qui appartient à César. Eh bien ici, c'est le cas, parce que je les remercie de m'avoir pris dans l'équipe. Il y a une merveilleuse ambiance ici et tout le monde s'entraide. On s'appuie les uns sur les autres. Même ma propre famille ne fait pas ça. Mamadou s'arrête ici, s'éponge encore les yeux un peu et essaie de reprendre ses esprits. À ses côtés, Sacha l'écoute avec bienveillance. Ça a pris du temps pour lui, mais il a tenu bon. Nous leur donnons une chance, mais c'est à eux de la saisir. Ils doivent persévérer. Une équipe soudée par l'entraide et la fierté. Les Alliés du village, c'est une équipe improbable, mais profondément unie. Pixel, un jeune homme enjoué, que l'on voit souvent dans la fratrie des Poppies, partage son enthousiasme. « Pour moi, c'est une opportunité incroyable d'apporter ma patte à la communauté et d'avoir un impact concret. » Un jour, un résident du village depuis 30 ans s'est arrêté pour les remercier. On voit la différence. Le village n'a jamais été aussi propre, leur a-t-il dit. Et pour Pixel, cette reconnaissance vaut tout l'or du monde. Gilles, un homme à la crinière poivre et sel, a trouvé un refuge dans cette équipe après avoir quitté un autre emploi. Ici, il y a du respect, une belle atmosphère. Même à moins 25 degrés Celsius, ça ne me dérange pas. J'aime ce que je fais. Martin, lui, fait partie de l'aventure depuis le début. Au départ, c'était pour des raisons financières. Mais j'adore ce que je fais. Ce travail m'apporte une expérience précieuse. qui sait où ça me mènera. Un programme de réinsertion et d'engagement citoyen. Derrière cette initiative, la SDC du village, en collaboration avec la Maison du Père, mise sur la réinsertion sociale et l'autonomie des participants. Nous offrons aussi des formations en partenariat avec d'autres organismes pour aider nos membres à trouver un emploi durable, explique Gabrielle Rondy, directrice générale de la SDC du village. La SDC, bien que cela soit au-delà de ses missions premières, a développé un plan de développement personnel et professionnel avec chaque participant issu de la Maison du Père. C'est important pour nous que ce projet des Alliés serve de tremplin pour ces hommes qui ont eu des parcours très difficiles, ajoute Gabrielle Rondy. Le travail n'est pas toujours évident. Les interactions avec des personnes en situation de détresse peuvent parfois être délicates. C'est pourquoi nos Alliés reçoivent une formation avec la Maison du Père pour mieux comprendre et gérer ces situations. Et en cas de crise, nous faisons appel à l'EMIS, équipe mobile de médiation et d'intervention sociale, ou au 911, ajoute-t-elle. Le public est également invité à participer. Des panneaux dans le village permettent de signaler des déchets via un code QR, un petit geste qui contribue à la propreté collective. Ce projet est rendu possible grâce au soutien financier de l'arrondissement de Ville-Marie et de la Caisse des Jardins du quartier latin, partenaire principal de la SDC du village. Les Alliés du village représentent bien plus qu'une brigade de nettoyage. C'est un véritable programme de réinsertion et d'engagement citoyen, transformant non seulement nos rues, mais aussi des vies. Leur dévouement quotidien, qu'il pleuve ou qu'il neige, est un témoignage puissant de la solidarité et de la résilience de la communauté. À l'arrondissement, nous sommes immensément fiers de leur travail et de l'impact positif que les Alliés ont sur le village, sa communauté et les personnes qui le visitent. C'est aussi grâce à l'implication de la SDC du village, de sa directrice générale, Gabrielle Rondy, et de la Maison du Père qu'une telle initiative transformatrice a été rendue possible. Cela démontre bien que le village et tout le district de Saint-Jacques sont solidaires, déclare M. Robert Baudry, conseiller de la ville pour le district de Saint-Jacques dans l'arrondissement de Ville-Marie. Bien plus que des services de propreté, les Alliés du village sont de véritables ambassadeurs-ambassadrices de notre milieu, contribuant à son dynamisme et à renforcer le sentiment de sécurité. Nous sommes fiers de soutenir cette initiative, à la fois sociale et environnementale, qui fait une différence importante dans notre communauté, soutient Simon Derry, directeur général de la Caisse des Jardins du quartier latin. Le village attend son été avec impatience. Avec le retour de la piétonnisation, l'énergie festive et vibrante du village renaîtra. Et pour les Alliés, c'est aussi un moment attendu avec fébrilité. C'est valorisant, autant pour nous que pour les gens du quartier, conclut Sacha. Voir les sourires, les plantes en pleine santé, les rues propres, ça fait toute la différence. Et puis, on n'arrête pas d'en parler aux nouveaux. Ils vont enfin vivre l'expérience de la piétonnisation. Et lorsque le village revêtira ses habits d'été, on les verra encore, ses Alliés, marcher dans les rues, veiller sur le quartier et surtout être là, présents, engagés, avec cette bienveillance qui les caractérise tant. Cette année encore, on pourra profiter de la piétonnisation du week-end de la Fête des Patriotes, ou de la Reine, c'est selon, soit en mai, jusqu'à la fin du mois d'octobre, puisqu'en théorie, les travaux de la Ville de Montréal ne devraient débuter qu'en automne. C'était « Des rues plus propres, des vies transformées, les Alliés du village en action ». Une chronique d'André Constantin Passiour, parue le 27 mars 2025 dans le magazine Fugue.
Le CI3S de Lanaudière poursuivi par des femmes atikamekw stérilisées sans leur consentement. Un texte de Stéphanie Marin, paru le 14 février 2025 dans Le Devoir. Le Centre intégré de santé et de services sociaux CI3S de Lanaudière sera finalement visé par une action collective intentée au nom de femmes Atikamekw de Manawan qui allèguent avoir été stérilisées sans leur consentement libre et éclairé. En août 2023, un juge de la Cour supérieure avait donné le feu vert à une action collective contre trois médecins ayant pratiqué les interventions reprochées. Il avait toutefois refusé de l'autoriser contre le CI3S où ces médecins travaillaient, soit l'hôpital de Joliette, là même où Joyce Echaquan est décédée en 2020. La Cour d'appel, dans une décision rendue cette semaine, a toutefois rectifié cette situation. Le CI3S est désormais poursuivi. S'il ne peut être tenu responsable des fautes des médecins, qui ne sont pas ses employés étant travailleurs indépendants, il peut l'être pour les fautes commises par d'autres catégories d'employés, ainsi que pour ses propres fautes, détaille la Cour d'appel. Dans la procédure, les deux femmes reprochent notamment à l'établissement de n'avoir pris aucune mesure pour endiguer le racisme systémique entre ses murs et d'avoir manqué à son devoir d'assurer aux patientes autochtones un milieu de soins adéquat et sécuritaire. La demande en justice peut désormais franchir toutes les étapes qui doivent la mener à un procès. Aucune des allégations de la poursuite n'a encore été prouvée devant un tribunal. Les deux femmes qui représenteront toutes les autres soutiennent avoir subi une ligature des trompes sans y avoir consenti librement. L'une affirme ne pas y avoir donné son accord ni même en avoir été informée. L'autre a dit avoir cédé sous la crainte et la pression indue de son médecin. De nombreuses femmes de leur communauté ont subi le même sort, disent-elles. Elles soutiennent avoir été victimes de racisme et ne pas avoir pu donner un consentement valide étant donné le contexte de discrimination systémique contre les Autochtones auxquels ont contribué les trois gynécologues obstétriciens visés. Dans la demande en justice, les avocats donnent plusieurs exemples de propos dégradants qui auraient été tenus à l'encontre de l'une des deux femmes. « Tu es encore enceinte? C'est le temps de te faire une ligature. Tu as trop d'enfants. Tu ne dois pas avoir de maison et tu dois être sur le BS. Vous, les Autochtones, vous avez tous des problèmes d'alcool. » Les deux femmes, dont l'anonymat est préservé, réclament des dommages compensatoires et punitifs pour ce qu'elles ont subi. L'action collective va désormais suivre son cours, mais il pourrait s'écouler des années avant le dépôt d'un jugement final dans cette cause. C'était le CI3S de Lanaudière poursuivi par des femmes Atikamekw stérilisées sans leur consentement. Un texte de Stéphanie Marin paru le 14 février 2025 dans Le Devoir.